Bonjour, je me présente, on va se présenter. Caroline Lejeune, je suis doctorante en sciences politiques et sociologie de l'environnement au laboratoire de recherche du CERAPS à Lille. Et je travaille sur le territoire de l'Union, bénéficiant d'une allocation CIFRE à l'Université Populaire et Citoyenne, qui est une association mobilisée sur le territoire.
Bonjour, Bruno Galda, maître de conférence sciences politiques à Sciences Po Lille, et je travaille sur la sociologie environnementale. Aujourd'hui, on va vous présenter quelques éléments sur ce quartier, éco-quartier exemplaire, puisque c'est comme ça qu'elle a été désignée, à la fois localement et nationalement désormais. Donc c'est, pour le localiser, un quartier assez... Enfin, c'est un quartier, c'est une intersection plutôt de trois espaces, sur une zone géographique assez conséquente, hein, puisque c'est 80 hectares qui vont être réaménagés. Qui sont d'ailleurs en réaménagement depuis de nombreuses années, on y reviendra sur cette question-là, à l'intersection de plusieurs villes, ce qui crée des problèmes de coopération intercommunale, etc. Se rajoute aussi la gestion de la métropole lilloise, donc on a là une sorte de millefeuille assez intéressant dans la construction d'un projet d'aménagement qui tient compte de différentes ambitions territoriales avec différents objectifs sur ce quartier. Alors, la zone de l'Union, donc, c'est devenu un élément vraiment emblématique de la politique territoriale de la métropole lilloise, qui a construit en 2006, mais vraiment d'une manière assez abrupte, mais on n'y revient pas là-dessus, hein, vous avez cette représentation un peu linéaire de l'histoire. En 2006, on décide de labelliser d'une manière purement technique et administrative, sous l'impulsion d'une élue de la communauté urbaine de Lille, avec le soutien de Pierre Monroy, qui décide qu'effectivement on va jouer cette carte-là. Et donc tout s'accélère, cette labellisation locale se construit autour de certifications techniques, etc. On y reviendra assez rapidement. Et puis, on a développé un certain nombre de papiers assez critiques, finalement, sur l'élaboration de cette certification locale. Et en 2011, en novembre 2011, cette zone de l'Union obtient le Grand Prix national des écoquartiers, ce qui nous a amené à nous interroger sur nos propres résultats de recherche, parce que ça veut dire qu'on n'avait pas compris grand-chose sans doute à ce que c'était qu'une certification nationale. Et puis, on ne devait pas être non plus sur les mêmes critères de certification que le comité scientifique, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'expertise, je ne sais pas si M. Genissier était encore là, et sur le rôle des experts dans cette labellisation. Donc nous, ce qui nous avait intéressé finalement, c'était à travers cette réflexion sur la durabilité, et puis pour essayer de coller au thème de l'atelier, c'est essayer de comprendre finalement qu'est-ce que c'est que ce projet durable qui est ainsi certifié à la fois par les autorités locales et les autorités nationales. Et puis au-delà du simple label finalement qui vaut ce qu'il vaut, c'est quelle politique économique, sociale, culturelle cette certification contribue à justifier et puis surtout à légitimer, puisque c'est pas simplement le principe de justification qui est intéressant, mais c'est aussi le principe de, à partir du moment où vous justifiez d'une politique, comment vous l'institutionnalisez et vous en faites un référentiel de l'action publique. Donc finalement, la posture que nous on a adoptée avec Caroline dans cette recherche, c'était plutôt d'interroger en quoi ce projet de rénovation urbaine répondait véritablement aux enjeux de la durabilité que nous on qualifie de durabilité forte, hein, donc en s'interrogeant principalement sur deux notions, en quoi ce type de projet d'écoquartier répond véritablement aux enjeux de l'irréversibilité, des irréversibilités que pose actuellement la question de la crise écologique, et puis surtout le fait qu'on établisse des principes d'aménagement urbain qui deviennent de moins en moins substituables par rapport à ces enjeux écologiques. Alors, pour essayer de répondre à cette question, on a deux parties. Alors, on ne va pas toutes les présenter dans le détail, parce que ça serait un peu long et on n'a pas le temps. On va simplement vous expliquer un peu comment on va orchestrer la chose. Premier élément, c'est comment cette durabilité va se justifier, par quel processus finalement ça se met en place autour de ce projet de territoire. Finalement, comment on va instrumentaliser. Mais ce n'est pas forcément une instrumentalisation cynique ou désabusée, c'est dans les entretiens qu'on a pu faire avec les élus locaux, certains pense vraiment aller vers un sens plus durable, c'est-à-dire avec une équité sociale, avec une justification écologique plus acceptable, etc. Donc y a pas, on n'est pas forcément dans le greenwashing ou dans un marketing pur et dur. On est vraiment dans une coopération hein, sur la finalité du projet, entre une intention de ces élus et une réalisation matérielle. Simplement, bon, bah, ça produit effectivement une politique particulière qui est qualifiée de durable, et puis il faut interroger un peu sur la dimension incomplète hein, de ce projet, et puis surtout sur un certain nombre de contradictions par rapport à cette durabilité forte. Donc finalement, comment on arrive à concilier cette durabilité, sur laquelle on va revenir, avec différents registres de justification qui, eux, sont déjà pleinement opératoires. D'accord ? Cette justification de la durabilité qui est émergente depuis quelques années, eh bien finalement, elle vient prendre appui sur des ressorts de justification qui, eux, sont très 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 bien installés dans les politiques de l'aménagement et de la requalification urbaine. L'efficacité des normes techniques, par exemple, les rhétoriques participatives, on insistera un peu là-dessus. Et puis la deuxième chose qui est intéressante, c'est que dans la construction d'une politique de justification, il faut toujours qu'il y ait un jeu institutionnel. Hier, il y avait un atelier sur la gouvernementale, etc. On voit bien que là, ça fonctionne parfaitement. Mais ça fonctionne sur notamment des impensés. Il y a un cumul d'impensés dans la manière dont ça se construit, à la fois des impensés locaux. Hein, on voit bien depuis quelques années qu'on étudie ce quartier et la manière dont se construit ce projet, c'est relativement incomplet dans un certain nombre de questions. Et puis surtout, impensés aussi au niveau national. On ira assez vite là-dessus, revenir un peu sur les critères de la sélection de ces projets. Et puis en conclusion, on viendra un petit peu sur finalement quelle est la politique que tout cela justifie par rapport à un prétendu ordre de grandeur écologique qui devrait émerger si on suit les travaux qui avaient été faits dans les années 83-93 autour de ces questions-là. On verra qu'effectivement, eh bien, on en est peut-être un petit peu encore loin.
Donc en premier lieu, on s'est posé la question de quelle manière la justification s'est construite sur la durabilité, et on s'est aperçu qu'il y a eu une construction de la dimension technique à partir de documents très sectorisés qui est le référentiel dynamique de développement durable, qui à la fois exprime les ambitions de la durabilité, gestion de l'eau, gestion de l'énergie, gestion de l'habitat, etc., etc., mais aussi une sectorisation sur le territoire, comment il y a une opéralisation de ces ambitions sur chaque secteur du projet, et aussi l'évolution de cadres réglementaires comme le plan local d'urbanisme. Aussi, ce territoire, avant d'être désigné comme écoquartier local, premier écoquartier pilote, a eu une désignation de pôle économique. Donc l'objectif, ça a été de dire, pour les pouvoirs publics, comment on va pouvoir rendre compatible l'attractivité économique avec la durabilité. Et si, par exemple, je prends l'exemple de la mobilité, l'enjeu, c'était de savoir comment on va concilier la politique de transport doux et de mobilité durable qui est entreprise sur le territoire, les ambitions, avec les exigences économiques, commerce, distribution, tertiarisation, mais aussi une grande concurrence territoriale entre différents projets urbains sur le territoire. Si je prends l'exemple de la mobilité, on pourra s'apercevoir qu'on a 5 parkings silos de 300 à 500 places chacun. Un peu répartis sur l'ensemble du territoire, du secteur de Lyon. Et ensuite, c'est juste les espaces publics. Si je prends les espaces privés, on va avoir un parking silo de l'entreprise Kipsta qui va s'installer, qui va faire son parking privé. Il y a LMH qui va faire son parking privé. Il y a Vinci qui va faire son parking privé. Il y a Télémélodie qui va faire son parking privé. Donc on a vraiment une adaptation des acteurs économiques, ce qui montre que les acteurs économiques ont du mal à s'approprier la question de la durabilité sur les territoires, et que par arrivée de concurrence, les opérateurs publics vont négocier dans une certaine mesure. Donc l'excellence technique devient réellement une forme d'appropriation normative de cette durabilité.
Mm-hmm. Et puis le pilier durable. Caroline, tu utilisais l'autre peut-être. Tu la marche, tu ne marches pas.
Ça fonctionne. Et en même temps, cette excellence technique va confirmer la maîtrise des impacts et des effets sautés de l'aménageur. Finalement, la certification est légitimée par des choix techniques justifiés par l'invocation des ordres de grandeur, comme on a rappelé tout à l'heure, juste avant. Ensuite, je vais être un peu plus longue, mais pas tellement, rassurez-vous, sur l'aspect rhétorique participative. Comment les opérateurs publics vont s'approprier la question participative, notamment sur ce territoire qui a une histoire locale depuis les années 1970, qui a des pratiques de citoyenneté et de lutte urbaine qui sont très présentes. Alors, je tiens à préciser quand même qu'il n'y a pas une reproduction de ces revendications, mais disons qu'il y a une certaine histoire citoyenne qui permet d'expliquer les contre-propositions et les contre-expertises qui vont jaillir sur l'Union. Le premier, c'est le cas de Raspail en quartier et Lilo Stephenson. C'était une opération NIMBY, une stratégie de refus du projet de la part de quelques habitants, qui finalement, après 4 ans de lutte et des enjeux locaux, politiques locaux et nationaux, vont bénéficier par la SEMI Renouvelée, qui est l'aménageur, de l'opération de réhabilitation des logements avec le cabinet d'architecture Patrick Bouchard. Alors, ce qui est super, c'est qu'effectivement, on a pu rassembler sur un territoire deux urbanistes très connus, Patrick Bouchain et Rachel Robert. On assiste vraiment à une stratégie architecturale qui apparaît comme un outil technique de la participation. Une autre forme de contre-proposition et de contre-expertise, c'est la contribution utopique à la norme technique du collectif de l'Union et de l'Université populaire et citoyenne qui vont construire une légitimité d'une vision utopique et décarbonée de la ville durable à partir des priorités sociales sur les priorités économiques. Ils vont proposer différents projets, notamment la contre-expertise de Sylvain Coquerel, qui est urbaniste à Vannes, qui a été formulée en 2010, on pourra y revenir par la suite. Et également du petit dessin animé qui met en scène concrètement le projet et le contre-projet du collectif de l'Union. Il y a un partenariat technique qui va se créer avec la SEMI Renouvelée et le collectif de l'Union, et qui va vraiment se renforcer à partir du moment où Sylvain Coquerel va définir un contre-projet, avec une réunion mensuelle tous les deux mois. Ces rencontres techniques vont être vraiment un soutien indirect au projet, puisqu'il va avoir une sorte de technicisation des acteurs associatifs qui vont vraiment plus insister sur les aspects techniques que sur les aspects politiques du projet d'aménagement. Et on voit, on observe concrètement que la relation politique s'efface devant la relation de partenariat technique et que la participation technique va justifier la légitimité du programme d'aménagement. Et de la même manière, les opérateurs vont avoir une appropriation du discours des associations qui va permettre de construire une gouvernance technique sur le projet. Donc le projet a été désigné quartier national. Je ne vais pas revenir sur tout le processus de certification du concours, puisque Guillaume Faburel l'a très bien fait hier. Juste dire que vraiment c'est un processus performatif où les projets et les critères ont été justifiés en même temps qu'ils ont été construits. Donc c'est vraiment un processus qui est en cours et qui permet de justifier une série de critères et de catégories, les 4 catégories que vous trouverez sur la grille référentielle de 2011. On s'aperçoit dans les documents de référence que les deux catégories les plus mobilisées sont démarche et processus et cadre de vie et usage qui témoignent de l'intérêt pour la question sociale, l'implication des habitants. 4 options techniques ont été privilégiées par les opérateurs et reconnues par le ministère de l'écologie que vous pouvez retrouver sur le site du ministère. Je ne vais pas revenir, c'est vraiment technique, l'aménagement de la voiture, l'autosuffisance énergétique. On voit que la durabilité, là, va vraiment reposer sur des séries de dispositifs verts et que finalement la vision de la grandeur de la nature est construite à partir d'une optimisation des innovations industrielles sur le territoire. Et c'est cette mise en scène du projet de la zone de l'Union que vous pouvez également retrouver sur le site du ministère de l'écologie. Une très belle vision idyllique du territoire a été formalisée sur le site du ministère. La labellisation nationale va légitimer une procédure locale et en même temps qu'elle va renforcer la démarche et le processus en cours d'élaboration actuellement, cela va revalider la procédure nationale. Donc il y a une légitimation autoréférentielle de la justification de la durabilité sur ce territoire. Mais néanmoins, on observe l'incomplétude du projet, qui est la difficulté de faire interagir la question sociale avec la question écologique de la durabilité, puisque ce territoire est aussi le territoire le plus pauvre de France, et a été désigné notamment la ville de Roubaix et de Tourcoing. Et on le voit très bien, par exemple, sur la politique énergétique, quand on observe la manière dont la question de l'habitat, par exemple, est définie sur le territoire, les deux axes structurants vont d'abord être l'efficacité énergétique et la renouvelabilité, et on va peu s'interroger sur les pratiques sociales et la manière dont on occupe un logement, notamment aussi par rapport aux pratiques alentours. Donc finalement, on voit qu'il y a une difficile conciliation entre les enjeux sociaux et les enjeux écologiques, et que ça permet d'interroger la pertinence du registre de la justification écologique élaborée.
Alors, pour quelques éléments de conclusion, puis aussi afin de lancer le débat. Sur la base de l'analyse qu'on a faite de cet écoquartier, il n'est pas plus exemplaire que d'autres types d'écoquartiers. Hein. Simplement, on voit bien qu'il a été désigné nationalement comme un écoquartier parce qu'il répondait à deux, trois choses assez emblématiques. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ce qui a permis finalement cet écoquartier d'être désigné nationalement comme un écoquartier exemplaire, les deux, trois éléments de plus-value, outre les considérations purement techniques, hein, l'habitat écologique, etc., mais les deux, trois éléments les plus emblématiques viennent des rhétoriques, des logiques participatives. C'est effectivement les contestations et les contre-propositions et les contre-expertises produites par les collectifs locaux qui ont effectivement donné un petit supplément d'âme finalement à ce label. Et puis comme ce petit supplément d'âme rentrait bien dans les catégories de sélection du ministère, eh bien hop, effectivement il a été désigné comme écoquartier exemplaire. Alors que sur le terrain, si certains d'entre vous ont eu la chance incroyable d'aller vous balader sur cette zone assez peu attractive finalement, eh bien il n'y a pas grand chose, hein, c'est à moitié abandonné, la population locale qui est la plus présente sont les Roms, qui sont régulièrement dégagés d'un quartier à l'autre, etc. Donc finalement on voit bien qu'on est sur une justification durable qui s'élabore dans une rhétorique, hein, sur des critères, pas forcément des indicateurs, mais en tout cas des critères de sélection qui vont pouvoir donner des pistes de certification qui deviennent de plus en plus élaborées, de plus en plus construites. Donc tout cela est encore imprécis, puisqu'on voit bien comment ce jeu de yo-yo entre le local et le national se complète les uns les autres, hein, le local s'appuyer sur la légitimation nationale et le national s'appuyant sur une espèce d'expertise locale. Mais quand on analyse les deux niveaux de registre, hein, ce que faisait hier Guillaume Faburel sur le niveau national et quand on voit sur le niveau local, on voit bien qu'on est face à un jeu de miroir qui renvoie les imprécisions, les imperfections, mais tout cela est gommé par ces procédures d'institutionnalisation. Donc effectivement, le fait que le ministère labellise quelque chose conduit à produire une certification qui devient finalement la référence pour les autres futurs écoquartiers, que ce soit au niveau national et que ce soit au niveau local, puisque l'île métropole va fonctionner un peu sur le même système. Alors trois éléments de réflexion qui me paraissent importantes, mais qui expliquent aussi la posture du chercheur, hein, puisqu'on a eu un petit débat tout à l'heure là-dessus. Et finalement aussi le rôle qu'on peut avoir nous, quand on produit un travail d'expertise, hein, puisque c'est ce qu'on fait aussi, à chaque fois qu'on produit un papier, les gens de la SEM sont très contents de lire ce qu'on a écrit pour savoir effectivement comment se positionner après dans leur communication. Alors l'idée c'est que cette certification locale, finalement, elle contribue malgré tout, qu'on le veuille ou non, à renforcer un ordre de grandeur productiviste. Alors j'utilise, dans les travaux qu'on fait, on utilise le terme de productiviste et pas forcément de capitaliste, parce que finalement, si on revient sur l'histoire de la théorie écologique, il n'y a pas une grande distinction fondamentale entre ce que souhaitait comme procédure d'accumulation matérielle un ordre capitaliste ou un ordre marxiste. Donc c'est plutôt une logique finalement qui renvoie à un certain nombre de thématiques qui sont effectivement intéressantes à étudier. Cette logique de la croissance, hein, qui continue à être le registre de justification principale des élus quand ils présentent le projet. L'hypothèse, c'est que l'attractivité de ce territoire, la mobilité renforcée, améliorée bien sûr, hein, plus écolo, machin, enfin, sur des autoroutes écologiques, sur des parkings écolos, avec des vélos écolos, enfin, tout le pataquès. Donc cette priorité à la mobilité va renforcer effectivement la compétitivité des territoires. Et dans tous les entretiens qu'on a fait, dans tous les documents qu'on a étudiés, vous avez cette coexistence des registres, hein, mais qui finalement semble pouvoir être compatible grâce à cette justification écologique. Et puis évidemment, le développement et la planification urbaine qui renvoie aussi à cette notion-là, notamment sur la question de la gestion de la mixité urbaine, la sociale. Hein. Deuxième élément, ce qui est intéressant, on assiste depuis une vingtaine d'années sur un développement des processus participatifs. Là aussi, on a eu une expertise extrêmement intéressante de des sciences sociales, notamment des sciences politiques, qui ont produit, hein, une légitimation de ce type de processus participatif. Et là aussi, on voit bien comment ces processus de participation vont contribuer à légitimer ce régime de justification. On voit par exemple sur les propositions utopiques du collectif de l'Union qui propose par exemple l'aménagement de jardins des jardins alimentaires, pas les jardins pour bobos qui vont faire pousser 2 plantes et demi, et des jardins alimentaires pour les populations précaires. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans le même registre que les jardins collectifs, mais néanmoins partagés, style Ajon. On est vraiment sur une logique de gouvernance alimentaire locale pour répondre à un problème alimentaire et un problème financier de l'accès à l'alimentation pour les populations précaires. Eh bien, on voit bien comment cette inégalité écologique, finalement, de l'accès à la terre est... à minima repris dans le dossier, mais finalement devient un élément de distinction de ce dossier. Et donc, on voit bien comment le registre de participation produit finalement une construction plus intéressante, plus durable, entre guillemets, hein, et comment elle va se faire. Mais bien sûr, c'est à minima, parce que quand on voit le dossier que la Zone de l'Union a proposé, on a du mal à se procurer ce dossier. C'est quand même assez incroyable que c'est un concours national, c'est un document, enfin bref, on a eu du mal, on a eu par des voies détournées, mais on l'a eu quand même. Et quand on voit effectivement dans les propositions, c'est assez intéressant que dans des réunions publiques ou des réunions de travail auxquelles surtout Caroline a assisté, on voit bien comment les propositions du collectif de l'Union étaient considérées comme anachroniques, hors champ, irréalistes, etc., ont été finalement reprises, retraduites, bien sûr dans un vocabulaire un peu plus technique, et ces propositions ont été effectivement valorisées au sein de la labellisation nationale. Et puis la troisième chose, c'est qu'on voit bien que cette durabilité n'en est finalement pas une. Si on est sur une hypothèse de durabilité forte, ce qui est la nôtre, avec une approche écocentrique, ce qui est la nôtre aussi, matinée de type écologie, puisqu'il faut un peu parler carte sur table et savoir de qui on est et d'où tu parles, camarade, comme on disait en 1968, et bien effectivement, nous, notre registre d'évaluation, c'est pas de savoir si c'est plus beau, plus machin, etc., c'est de savoir si ça correspond et si ça peut répondre aux irréversibilités écologiques. Et bien là, on s'aperçoit qu'effectivement, dans le discours, hein, la thématique de l'urgence est systématiquement employée, mais qu'effectivement, après, elle est mise en perspective et mise en balance, finalement, par rapport aux objectifs d'attractivité, et que cette conciliation, finalement, contribue à repousser la gestion de l'urgence écologique en disant, finalement, l'attractivité du territoire va créer de la richesse, et cette richesse permettra, effectivement, de répondre aux impératifs écologiques. Donc, effectivement, on n'est pas, selon nous, dans un registre, puisque l'objectif du colloque, c'était faire une critique de la ville durable, eh bien, effectivement, on pense que ça ne résoudra pas fondamentalement la prise en compte de ces urgences, parce qu'effectivement, ce type de problématiques sont difficilement conciliables par rapport au registre de justification dominant, qui reste effectivement l'attractivité, la compétitivité des territoires. Merci.